RFI.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, vous pourrez réagir au mouvement des Gilets jaunes en France depuis la mi-novembre, depuis 3 semaines. Ils se mobilisent un peu partout à travers le pays. Les revendications, vous le savez, sont nombreuses et parfois même confuses. Mais en substance, les Gilets jaunes réclament plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Et pour tenter d'apaiser cette colère, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier toute une série de mesures, 3 pour être précis, dont le gel de la hausse des taxes sur les carburants prévue au 1er janvier, mais visiblement, ces mesures sont jugées insuffisantes. Les Gilets jaunes promettent de rester mobilisés. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ils appellent à un 4e samedi consécutif de mobilisation à Paris, notamment sur les Champs-Élysées, mais aussi dans plusieurs grandes villes de France. Alors, que vous inspire cette contestation sociale? Vous qui nous écoutez à l'étranger, dites-nous quelle image vous avez de la France lorsque vous entendez, lorsque vous voyez sur les écrans de télévision ces manifestations, ces blocages et même ces violences. Et dites-nous si un tel mouvement pourrait finalement faire tache d'huile dans votre pays. Vous nous rejoignez, on a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. J'ai demandé à Christophe Jousset du service des sports d'être avec nous ce matin. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Les questions sont nombreuses concernant les déboires judiciaires d'Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football. Un verdict est tombé la semaine dernière au Caire, on va y revenir. On va commencer d'abord avec Salim qui nous appelle de Bamako. Bonjour Salim.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Un tribunal égyptien de Caire a condamné Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF et son secrétaire général, à des amendes d'un montant total de 24 millions d'euros. Pour violation de la loi concurrence. Je veux savoir, que reproche la Cour économique de Caire à ces deux hommes? Et pourquoi parle-t-on de la violation de la loi égyptienne?
Ouais. Christophe Jousset, c'est un coup dur hein, pour Issa Hayatou et son ancien secrétaire général. Chacun a été condamné à plus de 24 millions d'euros d'amende. On est donc les deux réunis à 48 millions d'euros d'amende. On leur reproche d'avoir violé la loi égyptienne relative à la protection de la concurrence. Pourquoi parle-t-on de l'Égypte? Car le siège de la CAF se trouve en Égypte. Mais de quoi parle-t-on exactement?
On parle des droits médias et marketing des principales compétitions de foot du continent africain, donc sous la direction de la CAF, c'est-à-dire principalement la CAN, évidemment, le CHAN, avec les joueurs locaux, et les Coupes d'Afrique des clubs, dont la plus prestigieuse des coupes, la fameuse Ligue des Champions. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, à la fin du mois de septembre 2016, au moment où Issa Hayatou était encore président de la Confédération africaine de football, au moment où Hicham El Amrani était encore secrétaire général de la CAF, eh bien la CAF a signé un contrat avec Lagardère Sport, la société française. Un contrat qui porte donc sur ces fameux droits médias et marketing pour une période qui est une longue période, de 2017 à 2028. Et le montant de ce contrat, c'est $1 milliard. Alors Lagardère a eu le marché, mais une société égyptienne qui s'appelle Présentation Sport a porté plainte. Pourquoi? Parce que Présentation Sport affirme avoir été candidate, comme Lagardère, pour obtenir ses droits. Mais Présentation Sport prétend avoir été écartée par la CAF.
Et cette société égyptienne assure même avoir fait une offre supérieure à celle de Lagardère.
Absolument. Elle estime en fait qu'elle n'a pas eu sa chance et que les règles donc de la concurrence ont été violées, n'ont pas été respectées. Donc, Présentation Sport a porté plainte devant l'autorité égyptienne de la concurrence, et dans la mesure où, comme vous le disiez, le siège de la CAF est au Caire. Et en janvier 2017, donc Issa Hayatou et Hicham El Amrani ont été renvoyés devant la Cour économique du Caire. Le procès a un peu traîné, il a fallu attendre plus d'une année avant les audiences, en l'absence d'ailleurs des accusés. Et finalement, la semaine dernière, le 26 novembre, le verdict est tombé. L'ancien président, l'ancien secrétaire général condamné chacun à 24 millions et demi d'euros d'amende chacun.
Oui, forte amende, très élevée. Issa Hayatou, lui, dénonce une diffamation intolérable. On aura l'occasion d'y revenir. Je crois que vous avez une autre question, Salim.
Oui. Comment la CAF a-t-elle réagi face à cette condamnation de ces deux anciens hommes?
Alors, la Confédération africaine de football a-t-elle réagi à ce verdict?
Non, on n'a pas eu de réaction. Vous comprenez bien que là, il y a deux directions. Il y a l'actuelle, avec Hamad, et il y a l'ancienne, Hayatou, le duo Hayatou El Amrani, qui n'est donc plus au pouvoir. Mais, en fait, ces derniers jours, vous avez un peu suivi, Rouen, je crois, dans notre émission, que la CAF a été très occupée avec ce dossier Cannes 2019. Et donc, en gros, elle avait d'autres chats à fouetter avant de réagir. Mais le président Hamad sera notre invité vendredi dans Radio Foot International et on ne manquera pas de lui poser la question. Ce qu'il faut dire, c'est que les deux condamnés évidemment se défendent après ce verdict. C'est un verdict grotesque pour Issa Hayatou, c'est une farce pour Hicham El Amrani. Ils ne comprennent pas, l'une des choses qu'ils ne comprennent pas pour leur défense, c'est comment on peut les condamner eux en tant qu'individus et pas en tant que mandataires de la CAF, parce qu'ils agissaient au nom de la CAF. Et
oui, parce que quand on regarde le verdict, finalement ce verdict dédouane l'entité Confédération Africaine de Football. Là, on vise personnellement l'ancien président et son ancien secrétaire général.
C'est l'un des arguments qu'ils vont évidemment faire valoir pour leur défense. Et sur le fond, dans le détail, la version de Issa Hayatou et de Hicham El Amrani, c'est que Présentation Sport a soumis sa candidature à la CAF au dernier moment, un jour seulement avant la signature du contrat avec Lagardère Sport. Il a fait un communiqué, Issa Hayatou, on l'a également eu sur l'antenne, vous l'avez entendu sur RFI la semaine dernière, pour dire que en gros, la candidature de Présentation Sport pour ce contrat, c'était une feuille de papier, une page, qualifiée d'offre, portant sur 1,5 million de dollars, et qui a été grosso modo glissée sous la porte des membres du comité exécutif à la veille de la signature. Voilà, un peu la défense. Donc, c'est une bataille d'avocats. Je vais vous dire quand même qu'il y a pas mal de questions qui se posent pour savoir jusqu'où ça peut aller, parce que appel a été déposé. Est-ce qu'on ira jusqu'à la justice internationale? Est-ce que cette décision peut être appliquée en dehors des frontières de l'Égypte? Tout ça, c'est un métier qui s'appelle juriste international.
Effectivement.
Et
en tout cas,
avoir du boulot.
Issa Hayatou, lui, assure qu'il est prêt à porter l'affaire devant un autre tribunal, un tribunal international compétent. On a encore des questions, je voudrais qu'on accueille Simon, bonjour.
Bonjour Rouen et bienvenue à Yaoundé.
À Yaoundé au Cameroun, nous vous écoutons avec Christophe Jousset.
Ok Rouen, je voudrais à la suite de la question apportée par M. Jousset savoir que risque donc M. Hayatou et son ex-secrétaire
à la suite de cette... Que risque-t-il? Que risque-t-il? Le réseau téléphone n'est pas très bon avec Yaoundé. Christophe Jousset.
On a un peu défloré la réponse. En fait, déjà, c'est vrai que cette condamnation à titre individuel, on a du mal à croire que finalement ça repose sur les fonds personnels au bout de la procédure judiciaire, sur les fonds personnels des deux hommes, et que la CAF en tant qu'institution et que signataire de ce contrat n'est pas un euro ou une livre égyptienne à débourser pour payer cette amende.
Oui, si j'imagine qu'un tel contrat est signé avec l'accord de l'ensemble du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ce n'est pas un matin Issa Hayatou et son ex-secrétaire général qui dit tiens, on a 1 milliard de la part de Lagardère Sport, on signe avec eux.
Exactement, c'est ce que dit aussi Hicham El Amrani dans sa réaction. Je le cite sur ce point-là, il s'agit d'un travail collectif avec des experts et le comité exécutif qui valide tout ça. On est sur un contrat d'un milliard de dollars, c'est un gros contrat. Si vous voulez d'ailleurs retrouver un peu, parce que c'est vrai que ce sont des dossiers assez touffus et compliqués, vous pouvez vous reporter aux articles de David Kalfa qui suit l'affaire depuis le début.
Des articles excellents,
sur
je le précise.
RFI.fr.
N'hésitez pas. Merci beaucoup Christophe Jousset d'être venu répondre à quelques-unes des questions que nous avons reçues concernant cette affaire, et on suivra évidemment l'évolution du dossier. Et puis Christophe vous le disait, le président Hamad sera l'invité de Radio Foot International vendredi. Aux côtés d'Annie Gasnier et de l'ensemble du service des sports, j'imagine.
Oui, on est en train de préparer nos questions, il y en a pas mal.
Il y en a pas mal, je vois ça. 9h20 à Paris, merci de nous écouter, appelez-nous, vos questions nous intéressent, 39 693 693 70. Bonjour Kevin.
Bonjour Juan Gomez et bonjour tous les héros dans l'ombre de l'équipe Appel sur l'actualité.
Et vous faites bien de les saluer, merci de penser à eux. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur l'épidémie d'Ebola qui sévit dans votre pays, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Effectivement, Juan Gomez, parce que l'épidémie du virus Ebola a été déclarée en RDC depuis le 1er août à l'est du pays, et depuis lors le bilan ne cesse de s'alourdir. C'est ainsi que je voudrais savoir dans quelle mesure les défis sécuritaires compromettent-ils la lutte contre Ebola, et comment l'OMS compte-t-elle affronter ces défis sécuritaires afin d'endiguer cette épidémie?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que cette épidémie sévit dans une zone confrontée à des conflits armés. Vous parliez à l'instant de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Eh bien, nous avons contacté son porte-parole. Il est avec nous en direct ce matin. Bonjour Tariq Jazarevitch.
Bonjour à vous.
Merci de prendre le temps pour répondre à notre auditeur de Kinshasa. Cela fait 4 mois que l'épidémie a été déclarée. À ce jour, combien de cas ont été recensés? Combien de personnes sont décédées?
Oui, donc voilà, pour ce qui est le bilan jusqu'aujourd'hui, on a plus de 440 cas confirmés de virus Ebola. Et donc, ce chiffre comprend plus de 220 personnes qui ont décédé. Donc, comme votre écouteur de Kinshasa a bien souligné, il s'agit d'une zone qui vit un conflit depuis des années maintenant, la zone de Kivu Nord. Mmh. Et donc, évidemment, ce conflit et ce contexte sécuritaire a un impact sur les activités de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Peut-être vous vous souvenez qu'au mois de septembre, il y avait donc des attaques des groupes armés contre l'armée congolaise et contre les forces de la mission de maintien de la paix MONUSCO, et que ces attaques ont arrêté les activités de réponse pendant des jours, parce que la population évidemment exige la sécurité et elle ne voit pas comment elle peut être engagée dans une lutte contre Ebola alors que la sécurité physique n'est pas assuré.
Donc ça veut dire concrètement, Tariq Jazarevitch, que cette insécurité freine les efforts pour lutter contre Ebola. Vous êtes sur le terrain, vous, l'OMS, vous avez déployé combien de personnes sur le terrain?
On a plus de 300 personnes, rien que l'OMS, déployées sur le terrain. Il faut ajouter plus de 800 personnes qui travaillent sur l'épidémie de la part du ministère de la Santé de Congo. Donc ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a des jours où les équipes peuvent pas sortir sur le terrain pendant quelques heures ou dans les villages précis à cause de l'insécurité. Cela veut dire qu'on n'est pas en mesure de suivre ce qu'on appelle les contacts, donc les gens qui ont été potentiellement exposés, qu'on n'est pas en mesure de faire des enterrements sécurisés, qu'on n'est pas en mesure de faire le travail de contrôle et prévention des infections dans les établissements sanitaires. Et donc, tout ça, évidemment, va avoir pour le résultat un nombre de cas élevé, et donc que le virus continue à se transmettre.
Est-ce que vos équipes bénéficient d'une protection? Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la MONUSCO, des casques bleus? Est-ce qu'ils accompagnent au quotidien les membres de l'OMS sur le terrain?
Parfois, c'est le cas. Donc, lorsque une zone où on doit aller est considérée à très haut risque sécuritaire, on bénéficie donc d'une escorte d'armée de la force de MONUSCO. La plupart des cas, c'est ce qui se fait pas. Donc, on essaye, parce qu'il faut vraiment se déplacer tout au long de la journée dans les différents villages pour faire la série des activités. Oui. Et donc, évidemment, ce serait beaucoup mieux de ne pas avoir à faire recours à cet accompagnement armé.
Merci infiniment, Tariq Jazarevitch, d'avoir pris le temps donc pour répondre à Kevin qui nous appelait de Kinshasa. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Organisation Mondiale de la Santé. Paulin, que faites-vous, Paulin? Vous qui êtes à Libreville, vous nous avez contacté, on vous rappelle, et ça s'en occupait. Alors, vous êtes peut-être... Ah, on me dit qu'il est là. Ça y est, il est là. Bonjour, Paulin.
Bonjour.
Ça vous fait rire en plus, vous savez, de l'autre côté en technique, on me disait, on comprend plus, ça ne passe plus, ça coupe, ça passe, en bref, on est ravis de vous avoir, merci de nous avoir contacté. Vous, vous avez des questions, Paulin, sur George Herbert Walker Bush, 41e président des États-Unis, décédé vendredi. Aujourd'hui, les États-Unis se préparent à lui rendre un dernier hommage, puisque ses funérailles seront célébrées en la cathédrale nationale de Washington, et vous aviez des questions, on vous écoute.
Ouais, j'ai deux questions à poser. Alors, le 41e président américain, W. Bush, est décédé à l'âge de 94 ans. Et sa mémoire a été grandement saluée par la classe politique américaine. Alors, que peut-on retenir de son action politique? Alors, comment expliquer qu'il soit le seul président américain à n'avoir fait qu'un seul mandat depuis les années 80?
Oui, alors vous parlez depuis les années 80, faut savoir qu'il a même été le seul président républicain depuis 1932 à ne pas avoir été réélu. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, les auditeurs vous connaissent bien, vous répondez souvent à des questions dans cette émission. Corentin Célin, d'abord un mot sur cette figure de George Bush père qui visiblement est assez consensuelle dans la classe politique américaine. À l'instant, Paulin disait, il a été salué par l'ensemble de la classe politique. Comment l'expliquer ?
Alors, on peut l'expliquer parce que il a atteint, on s'en souvient pas aujourd'hui, mais en 1990, il a atteint un sommet de popularité en 1990, début 1991, à cause de deux phénomènes. Il est apparu pour la population états-unienne comme l'homme qui mettait fin à la guerre froide, qui achevait cette période de conflit avec l'URSS, et au même moment, il menait une guerre présentée par lui comme une guerre juste dans le Golfe contre l'Irak de Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït, une guerre victorieuse au terme de laquelle il présenta un nouvel ordre mondial démocratique. Et vraiment, il était alors le président le plus populaire qu'aient connu les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale parce qu'il incarnait l'espoir de ce nouvel ordre mondial démocratique.
Ouais. Bah, justement, c'est paradoxal ce que vous dites, Corentin Célin, en 91, il est le président le plus populaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, en 92, il décide de briguer un second mandat, et là, il se prend une sacrée claque.
Oui, c'est vraiment le grand paradoxe de George Bush père, mais il s'explique de deux manières. D'une part, après cette fameuse guerre du Golfe, il affronte une récession économique à laquelle il ne sait pas bien répondre. Il augmente en particulier les impôts, contrairement à ses engagements de campagne de 1988. Et d'autre part, il faut jamais oublier que s'il a été battu en 1992, c'est aussi parce qu'il y a eu une candidature tierce, un troisième candidat, outre Bill Clinton, le démocrate. Il y a eu un milliardaire qui s'appelait Ross Perot, qui lui a pris une partie de son électorat. Et d'ailleurs, Ross Perot, c'était un des ancêtres, un petit peu, de Donald Trump, un milliardaire qui parlait vrai, qui parlait cash, et qui avait pris sur l'électorat républicain de George Bush.
Et au final, c'est donc Bill Clinton qui remporte ce scrutin présidentiel, qui, à l'époque, disons-le, est un inconnu. Donc, Corentin Célin, les Américains, quitte à choisir, ont préféré choisir un inconnu plutôt que celui qui a été le plus populaire de ces 40 dernières années.
Oui, tout à fait. Et il faut se souvenir aussi que c'était un changement de génération. En 1992, George Bush est apparu vieilli, un petit peu usé par l'exercice du pouvoir. Et une image avait beaucoup marqué les Américains lors d'un débat avec la population, lors d'un débat télévisé où il rencontrait les électeurs. Il avait été surpris en train de regarder sa montre, semblant un peu s'ennuyer avec les électeurs. Et cette image d'une personne un petit peu déconnectée par rapport à l'Américain moyen avait beaucoup servi Bill Clinton et desservi George Bush.
Ouais, il a finalement laissé l'image d'un homme du passé lorsqu'il a quitté la Maison Blanche. Merci Corentin Célin, je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'histoire. Paulin, merci à vous. Bonne journée à Libreville, au Gabon, à suivre le journal. Et on sera de retour dans 10 minutes pour notre débat du jour. J'ai envie de vous entendre ce matin sur le mouvement des gilets jaunes en France. La grogne visiblement va se poursuivre. Sur les réseaux sociaux, certains appellent à un quatrième samedi consécutif de mobilisation. On vous attend au standard.